Bon réveil, le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur cette confirmation hier soir que le numéro 3 du Hamas a bien été tué par Israël à Gaza. Les Gazaouis qui pourraient par ailleurs payer à très long terme les conséquences du déluge de feu israélien, nous le verrons également.
En France, retour sur la mobilisation des fonctionnaires et sur les salaires aujourd'hui, à l'appel de leurs syndicats.
Nous ferons le point sur la situation des enseignants-chercheurs à l'université. Et puis l'armée aussi est en manque de personnel. 3000 militaires manquent à l'appel. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour?
Nous parlerons du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Que peut-on y gagner?
Une demande aux allures de sommation. Hier, le président américain a affirmé avoir enjoint Benjamin Netanyahou d'envoyer une délégation israélienne à Washington pour discuter des moyens d'éviter l'assaut israélien sur la ville de Rafah. La Maison-Blanche espère bien qu'Israël s'abstiendra de toute offensive avant d'en discuter avec Washington. Washington qui, par ailleurs, constate que l'armée israélienne a fait des progrès importants dans sa lutte contre le Hamas. Les États-Unis ont en effet confirmé hier soir que le chef adjoint de la branche armée du mouvement islamiste, Marwan Issa, avait bien été tué la semaine dernière lors d'une frappe sur le camp de réfugiés de Nusayrat au centre de Gaza, à Jérusalem. Thibault Lefèvre.
Marwan Issa est le plus haut responsable du Hamas tué depuis le début de la guerre et il faut remonter à 2012 et la mort d'Ahmed Jaabari, l'ancien chef de la branche militaire à qui il a succédé pour trouver une cible de cette importance. Homme de l'ombre, membre fondateur du Hamas, emprisonné pendant 5 ans en Israël, il est accusé d'avoir planifié avec Yahya Sinwar et Mohamed Deif les attaques du 7 octobre. Selon les États-Unis, Marwan Issa est donc mort dans une frappe qui visait le vaste réseau de tunnels sous le camp de réfugiés de Nusayrat. L'armée israélienne assure qu'aucun otage n'a été tué lors de l'opération, mais reste très prudente. Pas de communication officielle, car il est arrivé par le passé que des responsables du Hamas annoncés morts réapparaissent en public. Et puis, contrairement à des groupes très hiérarchisés comme le djihad islamique, qui dépendent de leur chef, le Hamas a une organisation plus profonde, plus horizontale, bien implantée à tous les niveaux de la société, qui laisse penser qu'il ne suffira pas de couper les têtes pour éradiquer le mouvement.
Et puis à Gaza, en plus de la misère sanitaire, de la famine et de la peur, les ONG alertent désormais sur le risque, à plus ou moins long terme, des munitions non explosées qui ont atterri sur l'enclave et qui pourraient faire des victimes à retardement. Après le déluge de feu israélien qui a cours depuis le 7 octobre, la menace est patente. Les précisions de Christian Chéneau.
Au-delà d'un bilan humain effroyable, les bombardements israéliens ont produit 23 millions de tonnes de débris, estime l'ONU. Lors des trois premiers mois de la guerre, 45 000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza, endommageant totalement ou partiellement immeubles d'habitation, écoles ou hôpitaux. Mais les Gazaouis ne sont pas au bout de leur peine, leur territoire est désormais truffé, et pour longtemps, de bombes non explosées, explique Aneri, directrice du plaidoyer pour handicap international.
On estime que le taux d'échec, c'est-à-dire les bombes qui n'explosent pas à l'impact, est d'environ entre 10 et 15%. Ça donne une idée de l'ampleur de la contamination, environ 3000 engins non explosés qui sont dans les ruines des bâtiments détruits et qui représentent un danger mortel. En Syrie, on a des experts qui ont qualifié cette situation de mille feuilles d'explosifs. On peut avoir des restes explosifs qui sont dans des étages, qui sont dans les ruines. C'est extrêmement dangereux, extrêmement long, extrêmement coûteux. Donc probablement pour des années ou des décennies.
Handicap International vient d'envoyer deux spécialistes du déminage dans la bande de Gaza pour réaliser une première évaluation de l'ampleur de la contamination par des engins non explosés et notamment pour repérer les zones les plus dangereuses pour la population qui survit au milieu des ruines.
Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va se rendre une nouvelle fois au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, puis en Égypte dès demain, toujours dans l'objectif de parvenir à un cessez-le-feu et d'augmenter la livraison d'aide humanitaire. Donald Trump est incapable d'apporter à la justice new-yorkaise la garantie qu'il payera 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier. C'est pourtant la peine à laquelle il a été condamné en février dernier. Selon ses avocats, réunir une telle somme est impossible, ce qui signifie que malgré son appel, le candidat et ancien président pourrait se voir saisir par la justice plusieurs biens immobiliers. 10 ans tout juste après l'annexion de la Crimée. Une grande fête était organisée hier, Place Rouge au centre de Moscou, une date parfaite pour célébrer en même temps la réélection de Vladimir Poutine. Après un scrutin sans opposition et sans observateurs, un grand meeting suivi d'un concert où fut célébré le retour à la patrie des anciennes terres ukrainiennes annexées, je cite évidemment. Mais faute d'engouement populaire réel et spontané, la fête avait un goût de loupé. C'est ce qu'a observé en tout cas notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Les chansons patriotiques que sont venus interpréter les artistes favoris du Kremlin n'ont pas vraiment réussi à réchauffer la foule venue assister à ce meeting. Place Rouge, officiellement pour célébrer les 10 ans de l'annexion de la Crimée, mais forcément voulu aussi comme une célébration de la réélection de Vladimir Poutine au lendemain de la présidentielle. Manifestement, le pouvoir a eu du mal à rameuter dans les rangs ses vrais supporters. Il y avait peu de drapeaux, mis à part ceux distribués par l'organisation. Beaucoup de gens nous ont dit être venus ici contraints par leur employeur, comme cette femme travaillant dans la fonction publique.
Je veux rentrer chez moi le plus vite possible parce que c'est une horrible corvée.
Des supporters contraints, donc, qui n'avaient manifestement pas le cœur à célébrer quoi que ce soit, parfois transportés spécialement de loin, comme cette autre femme venue du nord de la Russie.
On nous trimballe, on est perdu, c'est le bazar. Nous ne sommes pas de Moscou, ça fait une heure qu'on cherche. C'est quoi ce concert? Les gars, je comprends que ça ne vous plaît pas. Eh bien, à moi non plus.
Bref, un public pas très enthousiaste, et cela s'est entendu pendant le discours de Vladimir Poutine. La place rouge sonnait creux donc, Vladimir Poutine, comme à son habitude, a parlé quelques minutes, puis il est reparti. Le chapitre présidentiel est terminé pour le Kremlin, qui peut maintenant revenir aux affaires courantes.
Sylvain Tronchet.
7h06 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. En France, les négociations sur les salaires avaient tourné court entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.
Le bras de fer se continue donc dans la rue ce mardi avec un appel à la grève lancé par tous les syndicats de la fonction publique pour des hausses de salaire. Selon le ministère, le pouvoir d'achat de ses agents aurait augmenté plus vite que l'inflation depuis 2015. Mais les syndicats réfutent les statistiques utilisées et préfèrent mettre en avant les données de l'INSEE qui indiquent que le salaire moyen a progressé plus de 2 fois plus vite dans le privé que dans le public entre 2011 et 2021. Ils réclament, notamment les syndicats, un point d'indice à nouveau revalorisé après un quasi-gel de 2010 à 2022. Dans la rue, il y aura des enseignants également échaudés par les réformes à venir, du personnel soignant, des agents de l'État et des collectivités, et de façon générale des représentants de tous les services publics, notamment des chercheurs universitaires qui estiment avoir perdu 30% de pouvoir d'achat depuis 25 ans et réclament des augmentations non seulement pour les titulaires, mais aussi pour l'armée de contractuels sans lesquels l'université française ne pourrait pas fonctionner. Cécile de Kervas-Douai.
Chaque année, à partir du 31 janvier, l'université ne peut fonctionner que grâce aux enseignants-chercheurs contractuels et aux heures supplémentaires des titulaires. Depuis 2010, les plus hauts salaires, c'est-à-dire les professeurs d'université, ont perdu 14% de rémunération et ce chiffre va croissant en descendant les échelons. Preuve que les carrières à l'université sont complètement bloquées. D'où la demande de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur qui exige au moins 10% d'augmentation du point d'indice pour tous et la mensualisation des contractuels qui représente 150% des effectifs de l'université. Anne Roger est la secrétaire générale du SNESUP-FSU, le syndicat majoritaire dans les universités.
Nombre d'entre eux ne sont même pas mensualisés, c'est-à-dire qu'ils travaillent toute l'année en étant sous-payés parce que l'heure des contractuels, elle est en général inférieure au SMIC. Et en plus, ils ne sont pas mensualisés, donc ils doivent attendre toute l'année avant d'être payés. On exige un plan de recrutement massif de titulaires depuis un certain nombre d'années. On n'est pas entendu et on a aujourd'hui un plan d'austérité qui nous a été en plus présenté de 904 millions d'euros. Donc on se demande comment ces heures-là elles vont pouvoir être payer. Donc ça veut dire quoi? La seule solution à la fin, ça va être de fermer des formations. Donc les étudiants vont chercher des places ailleurs et notamment dans le privé.
Face au plan d'austérité annoncé, l'intersyndicale prépare donc une autre journée de mobilisation spécifique pour défendre l'université et la recherche publique.
On les entend moins manifester et pour cause, la grande muette, l'armée, est en proie, elle aussi, à un déficit de vocation. Il manque, selon le ministre des Armées, près de 3000 personnels dans l'armée française. Sébastien Lecornu en a fait état hier lors d'une réunion des responsables de tous les services de l'armée. Il a déploré un trop grand nombre de départs dans ses rangs. La faute, Mathilde Cariou, non pas à un trop faible niveau de recrutement, mais à une difficulté à fidéliser les militaires.
En moyenne, les militaires servent un an de moins qu'il y a 10 ans. Parmi les principaux motifs d'insatisfaction, on retrouve un peu les mêmes que dans le reste du monde du travail. Logement, rémunération, manque de moyens. Mais aussi, nous explique Bénédicte Chéron, spécialiste des armées à la Sorbonne, des griefs plus spécifiques liés aux contraintes de la vie militaire.
La nécessité d'accepter une certaine souplesse dans l'organisation du temps de travail, parce que le temps de travail militaire ne peut pas être le même qu'un temps de travail civil. Puis il y a des moments dans la vie militaire où il faut savoir se priver d'un certain nombre de communications. Ça peut jouer sur la fidélisation.
S'y ajoute un sentiment de non-reconnaissance de la part des pouvoirs publics, qui passe notamment par les usages que font les politiques et des militaires.
Désormais, les militaires ont bien compris que la plupart, en tout cas dans l'armée de terre, vont devoir faire l'opération Sentinelle. En revanche, quand les militaires ont l'impression qu'on va les solliciter encore plus pour des questions de sécurité intérieure, ça peut être une raison de mécontentement et de non-fidélisation. Parce que ceux qui s'engagent pour être militaires ne s'engagent pas pour faire de la sécurité intérieure.
Le ministre a annoncé hier une série de mesures pour relancer l'attractivité de l'armée, des primes incluses dans les retraites et des grilles de salaire revalorisées pour un budget de 145 millions d'euros par an.
On termine ce journal en fermant les yeux pour renforcer notre écoute. C'est ce qui ressort de cette lecture dans le noir à laquelle a assisté hier Talita Thierot. Une séance de lecture pour partager l'expérience des aveugles et malvoyants organisée à l'Institut National des Jeunes Aveugles Louis Braille à Paris dans le cadre d'un festival littéraire, Effraction. L'acteur Thibaut de Montalembert y prêtait sa voix pour une lecture d'un nouveau roman de Valérie Zenati, Talita Thierot.
Les lumières s'éteignent, nous plongeons dans le noir tout en douceur.
Mon médecin s'étonna que je ne me sois pas affolé d'avoir perdu le toucher. Non, non, ce n'est pas anodin. J'étais attaché à cette perte.
Être privé d'un sens, ici la vue, en développe beaucoup d'autres. On accorde plus d'attention au silence ou au souffle. Découvrir le monde différemment, c'est l'objectif de Stéphane Gaillard, directeur de l'Institut Louis Braille.
Qu'est-ce que c'est qu'être aveugle? Comment on a accès à la culture? Ça vous permettra de vous déconnecter, on va dire, de l'agitation du monde. Là, voilà, il y a plus de sollicitations par les yeux. Il y a pas d'Instagram, il y a pas de tweet. On est concentré sur l'œuvre littéraire et sur son interprétation.
Lire est un exercice qu'affectionne Thibaut de Montalembert. Dès l'âge de 15 ans, l'acteur lisait pour son frère Luc, devenu aveugle à 33 ans.
Et comme il avait beaucoup voyagé, les livres que je lui lisais étaient des livres qui parlaient d'endroits qu'il connaissait. Donc c'était une lecture qui était à la fois pour moi une espèce de découverte de lui, de cette personne que je connaissais peu. Le fait d'être obligé de supprimer un sens, qui est la vue, renforce la vision.
Les spectateurs, eux, ont fait le choix de perdre la vue pendant une heure. Certains ferment simplement les yeux, d'autres se mettent les mains sur le visage.
Il est beau, il s'appelle comment? Je demande en désignant le husky couché à ses pieds. Hitler. Et il éclate de rire. T'es bien une occidentale, toi. Tu crois tout ce qu'on te dit.
Les lumières se rallument et c'est assez violent pour Frédéric. À 62 ans, c'est la première fois qu'elle assiste à une lecture dans le noir.
C'est intéressant la progression du noir comme un voyage qui se prépare. J'ai eu même des réactions physiques un peu bizarres. Il m'est arrivé de sursauter. C'est très étrange. J'ai envie de dire même joyeux.
Merci.
Talita Thierot, écoutons la météo à présent. De belles éclaircies en fin de matinée malgré des nuages sur la partie nord. Soleil presque partout cet après-midi. Les températures minimales sont en baisse entre 4 et 9 degrés sur une grande moitié nord, de 7 à 12 au sud ce matin. Et puis comptez au plus chaud entre 14 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous Guillaume Herner.
Et oui, tout cela est vrai. Merci à Norchouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton autour du traité du CETA, que peut-on y gagner? Elle va tout vous expliquer.